Culture et confiture. Une chronique bien tartinée par Manon Seren.
Vous reprendriez bien un peu des cultures ? Alors c'est parti ! Mais avant tout, si vous êtes encore au petit-déj, faites griller les tartines, beurrez et ajoutez votre cuillère de confiture. Mais surtout, n'étalez pas trop votre culture. C'est parti pour un nouvel épisode de Culture et confiture. Le week-end approche, alors je vous propose de revenir sur les différents événements évoqués cette semaine. Mais ce n'est pas tout, sortez papier-stylo, petit quiz. Mardi 2 juin, nous avions commencé la semaine sur un trône. Vous vous en souvenez ? Nous avions en effet parlé du couronnement de la reine Elisabeth II, puisque c'est 67 ans plus tôt qu'elle devenait reine d'Angleterre après la mort de son père George VI le 6 février 1952. Ce couronnement connaît à l'époque une ampleur inédite, il s'agit du premier couronnement britannique entièrement télévisé. Auparavant, les caméras avaient été interdites au sein de l'abbaye de Westminster, où s'est donc déroulé le couronnement. En direct sur le service de la BBC, la cérémonie devient un des premiers événements majeurs à être diffusé à la télévision au niveau international, tandis que sur place, plus de 3 millions de Britanniques étaient présents. Et derrière tout cela se cachent plus de 14 mois de préparation, dirigés par de nombreuses commissions spéciales. Pour l'anecdote, la reine Elisabeth avait chargé le designer de mode Norman Hartnell d'imaginer l'intégralité des tenues de la famille et même la robe de couronnement de sa majesté. Cette dernière mission ne fut pas des moindres puisque pour parvenir au modèle final, le styliste proposa au total 9 modèles avant de s'arrêter sur une robe en soie blanche brodée de fleurs qui représentait les différents emblèmes des pays du Commonwealth. Afin d'assurer le bon déroulement de la cérémonie, la reine a répété plusieurs fois le déroulé avec un drap pour remplacer sa traîne de velours et une formation de chaises pour simuler la voiture. Pendant plusieurs longues journées, elle s'entraînait également à porter sa couronne, notamment au cours de ses tâches quotidiennes. Prendre le thé, lire le journal, travailler derrière son bureau, chaque détail devait alors être maîtrisé au millimètre près. Peut-être que certains se souviennent de cette histoire de la reine d'Angleterre à Roubaix. C'était en 1957. Curieuse de découvrir la région du nord de la France, la reine, en compagnie du roi, visitait le 11 avril 1957 la lainière de Roubaix. La réussite dans le domaine du textile tel que la ville connaissait était à l'époque une chose sur laquelle les Anglais avaient pendant longtemps attisé les convoitises. Si cela vous intéresse, la visite est retracée par la Voie du Nord dans la série Un jour un événement quand Elisabeth II découvrait le Made in Roubaix, disponible sur le site du journal.
Culture et confiture.
J'espère que vous n'avez pas trop de courbatures depuis mercredi. Au moins, vous vous souvenez du sujet, non ? C'était la Journée internationale du vélo. Née en 2018 au cours de la réunion ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, cette journée promeut l'utilisation du vélo. Les Nations Unies ont ainsi redéfini l'usage de la bicyclette comme un moyen de transport simple, accessible, fiable, propre, durable et respectueux de l'environnement qui favorise la bonne gestion de celui-ci et entretient la santé. Et en effet, le vélo est considéré comme une activité physique d'intensité modérée dont l'usage quotidien est fortement recommandé pour la bonne santé et le bon fonctionnement de l'organisme. Pédaler quelques kilomètres de manière régulière réduit en effet le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales, de cancer, de diabète et plus généralement du risque de décès. Alors jusqu'ici, sur votre vélo, vous avez tout bon. Le vélo encouragerait également la créativité et la participation sociale et donnerait à l'utilisateur une conscience immédiate de son environnement, tout comme il peut être un moyen d'accès à l'éducation, à la médecine et au sport. Bon, cette fois, je sais que vous n'hésiterez plus à vous remettre en selle. C'est le programme Share the Road, Partager la route, un programme des Nations Unies pour l'environnement qui a révélé des besoins réels de la part des piétons et des cyclistes en termes de mobilité, particulièrement en milieu urbain. Souvent négligé, il représente pourtant une grande partie des populations citadines. Investir pour encourager les déplacements piétons et cyclistes permettrait pourtant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer donc la qualité de l'air. Il a également été démontré que ces aménagements pourraient permettre une meilleure sécurité routière ainsi qu'une réduction de la pauvreté. Alors que fait-on pendant cette journée ? Tout dépend des villes et des pays, mais plusieurs promenades à vélo s'organisent à travers le monde avec cette idée justement de faire redécouvrir ou découvrir l'univers du cyclisme. Et dans la région lilloise, avec l'arrivée des beaux jours et la sortie du confinement, le vélo connaît aussi un succès florissant. D'ailleurs, si vous êtes encore hésitant, sachez que des dispositions ont été mises en place pour vous aider à sauter le pas, avec notamment une aide gouvernementale pour les réparations ou encore une augmentation du nombre de pistes cyclables. L'association Droit au vélo à Lille sera d'ailleurs ravie de vous orienter et de répondre à vos questions à ce sujet pour vous soutenir dans cette démarche aussi bonne pour l'environnement que pour votre santé.
Culture et confiture.
Hier, je vous ai invité dans les airs à bord de la première montgolfière, c'est bien ça, puisque c'est le 4 juin 1783 que les frères montgolfiers réussissaient à faire voler la première montgolfière. Je vous rassure, il n'y aura pas de drame à l'arrivée puisque ce premier vol aérostatique de l'histoire, avec un grand H, s'est fait sans passager à son bord. Il s'agit d'un événement incroyable pour l'époque car c'est la première fois que des hommes parviennent à faire décoller du sol un objet conçu et fabriqué lui-même par des hommes, les frères montgolfiers. Issus d'une famille de 16 enfants, les deux frères rejoignent rapidement l'univers de la papeterie de leur père qui connaît à l'époque un large succès. L'un architecte conçoit des bâtiments pour l'entreprise familiale, tandis que l'autre s'occupe d'une nouvelle antenne de la papeterie. À la mort de leur père, les deux frères se voient offrir de nouvelles responsabilités dans l'entreprise, et c'est plus tard, après la découverte de l'hydrogène, qu'ils se lancent dans de nouvelles expériences avec leur matière première, le papier. Après différents essais, mais aussi échecs, la véritable première création des frères se construit et s'apparente alors à un globe en taffetas, une toile en soie, qui sera par la suite gonflée à l'aide d'air chaud. Ce premier prototype de la montgolfière s'est alors élevé dans les airs à plus de 1000 mètres de haut, créant la surprise des riverains, les habitants d'Annonay en Ardèche. Pour la petite anecdote, on connaît même l'histoire de la naissance de cette idée qui s'est faite autour d'un café. Peut-être même le café du petit-déj pris en écoutant Culture et Confiture, qui sait ? En tout cas, c'est en faisant chauffer l'eau dans la cafetière sous un globe de papier que l'un des deux créateurs, un des frères, vous avez suivi, a réalisé que l'air chauffé avait la capacité de faire s'élever le papier. Vous comprenez maintenant l'histoire et le pourquoi du nom de montgolfière. Quelques mois après le premier vol des frères, l'opération est renouvelée avec à son bord un coq, un mouton et un canard, soit le premier vol habité devant les yeux ébahis du roi Louis XVI à Versailles. Il faudra ensuite attendre le mois d'octobre, toujours de l'année 1783, pour que soit organisé le premier vol humain. Après ces histoires de ballons dans les airs, j'imagine que vous aussi vous avez envie de vous lancer. Eh bien, si cela vous intéresse, sachez que notre région propose de nombreuses offres pour organiser vos baptêmes de l'air en montgolfière, une manière différente de redécouvrir la richesse de certains territoires des Hauts-de-France. Et bien sûr, si vous sautez le pas, on attend vos anecdotes. Allez, bon vol et bon week-end à tous, et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode inédit de Culture et Confiture.
Retrouvez Culture et Confiture en podcast sur notre site rpl.radio.